Bonjour, nous sommes les Dignes Ding Dong et nous souhaitons aujourd'hui parler de la place de la femme dans l'art et plus précisément dans les domaines de la sculpture, la peinture et l'architecture en tant qu'artiste. Quelle est la place de la femme dans l'art ? La femme n'a pas toujours été admise dans le champ artistique comme artiste à part entière. Pourtant, elle a été déifiée et représentée en héroïne durant la préhistoire et l'Antiquité, mais c'est assez tardivement qu'elle s'est hissée au rang de créatrice à l'égal de l'homme. À la Renaissance, elle vit dans un monde d'hommes, reines, favorites ou paysannes, peu importe leur statut, les femmes de cette époque connaissent la tutelle d'un père ou d'un mari, la pression d'enfanter, les difficultés du veuvage. La Renaissance est à la fois une période de l'histoire et un mouvement artistique. Elle voit progressivement le jour en Italie, au XVe et XVIe siècle, avec le maniérisme, qui est une tendance de l'art italien au XVIe siècle, caractérisée par un raffinement technique et la mise en évidence de l'artifice. Cette époque marque la fin du Moyen-Âge et le début des temps modernes. Alors, nous pouvons nous poser la question : pourquoi les femmes artistes sont moins connues que les hommes ? À la Renaissance, les femmes ne peuvent ni accéder aux académies de peinture, ni aux ateliers d'artistes où les jeunes peintres se forment auprès de leurs maîtres. Elles peuvent exercer dans un atelier si et seulement si leur père ou un frère y travaille. Nombreuses sont donc les femmes peintres à s'être frayé un chemin au cœur de l'effervescence artistique et culturelle de la Renaissance. Si beaucoup d'entre elles ont œuvré anonymement dans les ateliers de leurs maîtres, celles dont les noms et les œuvres nous sont parvenus ont su mettre leur talent au service de leur liberté. Mais de grandes zones d'ombre demeurent encore. Difficile, en effet, d'authentifier des œuvres ou des documents datant d'une époque où les femmes ne pouvaient rien signer de leur nom. De nos jours, grâce au travail de chercheurs passionnés, ces artistes, trop longtemps oubliés, sont désormais célébrés par les musées. Le musée des Beaux-Arts de Gand consacrait ainsi en 2018 une grande exposition aux dames du baroque. Et 2 ans plus tard, le Prado rendait hommage à Sofia Stiba Anguissola et Lavina Fontana, quand la National Gallery de Londres mettait en lumière Artemisia Gentileschi. La Renaissance ne fait que commencer. Si le statut d'artiste apporte à ces femmes une certaine émancipation, elles n'en restent pas moins cantonnées à une typologie de sujets précis. La milanaise Fede Galicia, 1578-1730 par exemple, se consacre à un genre alors nouveau, la natura imposa, soit la nature morte. Pour Linda Nochlin, féministe, enseignante et chercheuse en histoire de l'art américain, mais également pionnière de l'histoire féministe, née le 30 janvier 1931 à Brooklyn et décédée en octobre 2017. Spécialiste de l'art du 19e siècle français, pour elle, la présence moindre des femmes dans l'histoire de l'art s'explique par le fait que celles-ci se sont simplement vues écartées de l'apprentissage et de la pratique de l'art pour des raisons historiques et culturelles. Nous pensons également que pour des raisons économiques, les femmes de condition moyenne ne pouvaient sans doute pas se permettre l'achat du matériel nécessaire aux artistes de l'époque. Et leur emploi du temps devait être consacré à des tâches familiales, professionnelles et ménagères. En 1976, Linda Nochlin présente une exposition intitulée « Women Painters », consacrée aux femmes peintres de 1550 à 1950, au Los Angeles County Museum of Art. Cette exposition traduit ses interrogations quant au culte voué à des peintres comme Michel-Ange, alors que de nombreuses artistes femmes, telles que Sofonisba Anguissola, Elisabeth Louise Vigée-Lebrun ou encore Suzanne Valadon, sont progressivement tombées dans l'oubli. Elle présente également l'exposition Global Féminisme au Brooklyn Museum en 2007.
Voici quelques femmes peintres reconnues en France et en Italie. Comme on peut le remarquer, elles faisaient partie de familles plutôt aisées. Tout d'abord, voici Sofonisba Anguissola, née à Crémone en Italie vers 1532 et morte à Palerme en 1625, artiste peintre italienne. Spécialisée dans les portraits, elle arrive en 1559 à la cour d'Espagne de Philippe II et devient dame d'honneur d'Élisabeth de Valois, professeure de la reine et peintre officielle de la cour jusqu'en 1573. Elle peint de nombreux portraits, dont ceux du roi, celui d'Élisabeth de Valois, celui d'Anne d'Autriche et aussi celui du poète de Crémone, Giovanni Battista Caselli. Née dans une famille de petite noblesse, Sofonisba Anguissola a été l'une des premières femmes peintres à atteindre de son vivant les sommets de la scène artistique européenne.
Nous vous proposons à présent un titre de Kate Bush, Wuthering Heights. Walking through the heart.
Voici une autre artiste peintre française nommée Suzanne Valadon, pseudonyme de Marie-Clémentine Valadon, née le 23 septembre 1865 à Bessines-sur-Gartempe, Haute-Vienne, et morte le 7 avril 1938 à Paris. Elle est une artiste peintre française. Ses œuvres sont conservées dans de nombreux musées, dont le Musée national d'art moderne à Paris, mais aussi dans le Metropolitan Museum of Art à New York, le Musée de Grenoble, le Musée des Beaux-Arts de Lyon. Une exposition permanente lui est dédiée à Bessines-sur-Gartempe, sa ville natale. Elle est la mère du peintre Maurice Utrillo, 1883-1955. Fille naturelle de Madeleine Valadon, blanchisseuse, Marie-Clémentine Valadon devient acrobate de cirque en 1880, jusqu'à ce qu'une chute mette fin prématurément à cette activité. Dans le quartier de Montmartre où elle habite avec sa mère, puis avec son fils, le futur peintre Maurice Utrillo, elle a la possibilité de s'initier à l'art au fil de ses rencontres. Pour aider sa mère, elle porte le linge repassé chez les clients. Elle pose également pour Auguste Renoir et pour d'autres artistes de l'époque. À partir de 1881, elle fréquente le milieu artistique de Montmartre où elle a vite plusieurs admirateurs. À 18 ans, elle fait des dessins, surtout des portraits à la mine de plomb, au fusain et à la sanguine. Elle peint des natures mortes, des bouquets et des paysages marqués par la force de leur composition et leurs couleurs vibrantes. Elle s'inspire aussi de son entourage, ainsi elle brosse les portraits de son fils et de sa mère. Elle peint également des nus. En 1886, Marie-Clémentine déménage dans la maison où Henri de Toulouse-Lautrec loue un atelier. Elle devient son modèle et il fera d'elle le portrait intitulé « Gueule de bois ». C'est Toulouse-Lautrec qui lui attribue le prénom de Suzanne. Ce sera son prénom d'artiste. Après avoir découvert par hasard quelques dessins faits par elle, il lui conseille de les montrer à Edgar Degas. Celui-ci est enthousiaste et Suzanne Valadon devient son élève et sa protégée. En 1894, Suzanne Valadon expose pour la première fois au salon de la Société nationale des beaux-arts 5 dessins. Elle commence à peindre à l'huile en 1896 et par la suite exposera principalement des portraits. Perfectionniste, elle peut travailler plusieurs années ses tableaux avant de les exposer. En 1909, année où elle expose au Salon d'automne à Paris, dont elle deviendra sociétaire jusqu'en 1933, elle se met en ménage avec l'ami de son fils, le peintre André Uther, 1886-1943, qu'elle épouse en 1914. Cette union houleuse durera près de 30 ans, après André Uther, pardon, en Adam et elle-même en Ève, figure sur l'une de ses toiles les plus connues, Adam et Ève, Paris, Musée national d'art moderne. À la fin de sa vie, elle participe alors aux expositions de groupe organisées par la Société des femmes artistes modernes, FAM, créée en 1931. Elle meurt le 7 avril 1933, entourée de ses amis peintres André Dorin, Pablo Picasso, Georges Braque et Georges Carr, lequel dessine son ultime portrait ce jour-là. Elle est inhumée le 9 avril 1938 au cimetière parisien de Saint-Ouen.
Du compositeur Alexandre César Léopold Bizet, L'amour est un oiseau rebelle, chanté par Maria Calla.
Saint-Esprit, c'est l'autre que je préfère. Il n'a rien.
Société des femmes artistes modernes, FAM, créée en 1931, est une association de femmes artistes françaises qui a organisé un salon annuel de 1931 à 1938 à Paris. Cette société, qui s'inscrit dans la lignée de l'Union des femmes peintres et sculpteurs, fondée par Marie-Anne Camax-Zoger en 1930, organise jusqu'en 1938 un salon annuel dans des lieux divers comme la Galerie de la Maison de France, la Galerie Bernheim Jeune, au pavillon des expositions sur Esplanade des Invalides et au Petit Palais. Pour présenter et défendre le travail artistique des femmes, elle le déclare, « J'ai cherché, en formant les FAM, à offrir un groupe d'artistes vraiment convaincus à notre art moderne dans notre modeste cadre féminin. » Pour en assurer le succès, des hommes politiques, des directeurs des Beaux-Arts, des membres de l'Institut, des hommes de lettres, sont nommés membres d'honneur. Il était nécessaire pour des femmes artistes à cette époque d'être chaperonnées afin de pouvoir être reconnues. Le salon annuel expose des œuvres en 1934 de Camille Claudel. Le 19 mars 1938, Albert Lebrun, président de la République, et Jean Zay, ministre de l'Éducation nationale et des Beaux-Arts, visite le salon et évoque cet événement en exprimant, je cite, « Quelle belle reconnaissance par le Front populaire du travail collectif des femmes artistes modernes qui ont réussi à rassembler pendant presque 10 ans une soixantaine d'artistes parmi les plus importantes de l'entre-deux-guerres. Dans le climat de double morale esthétique qui régnait alors, c'est un tour de force d'avoir réussi à montrer de ses œuvres au public en constituant une sorte de force collective qui atteste d'une réalité, d'une vitalité et d'un regard autre qui a également droit de citer. Nous souhaitons aborder la question « Pourquoi les gens aiment l'art ?» L'art nous permet de nous déconnecter de notre quotidien, sans avoir à partir dans des contrées lointaines pour nous dépayser. Il nous permet de nous évader mentalement. Il représente quelque chose dont l'utilité directe dans nos vies est plus difficile à percevoir que nos occupations habituelles. Cependant, pour certains, l'art n'a pas grand intérêt. Il s'agirait de pur superflu. Jusqu'à ce que la science s'en mêle et mette à mal ses idées reçues. Si l'art fait partie intégrante des civilisations humaines depuis 30 000 ans, ce n'est pas le fruit du hasard. L'art nous fait du bien. Cazoar vous invite à explorer les liens existants entre l'art et le bien-être. Les neurosciences se sont penchées sur la question. Que se passe-t-il dans notre cerveau lorsque nous contemplons une œuvre d'art ? La réponse de notre cerveau est étonnante. Puisqu'il sécrète de la dopamine, la même hormone présente dans l'état amoureux. Cette étude, menée par des neurobiologistes à Londres en 2012, examine des volontaires en train de contempler des œuvres de grands maîtres. Elle démontre de façon irréfutable combien l'art stimule nos émotions intimes et profondes. L'art crée du lien et nous aide à mieux nous connaître. L'art a vocation à être vécu ensemble, à être partagé dans la communauté. Le public d'une exposition ou d'une manifestation artistique aime à échanger ses points de vue sur le sujet. Que ces derniers soient positifs ou négatifs, importe peu, puisque l'essentiel n'est pas tant d'aimer ce qu'on a vu, mais d'avoir pu ressentir une émotion authentique face à l'œuvre. Le mot « esthétique », issu du grec « aesthésiser », signifie d'ailleurs « sensation ».
Écoutons à présent un titre de Tina Turner et Ike, « World Lotta Love ».
Yeah!
Abordons à présent quelques artistes femmes sculptrices. Tout d'abord, Camille Claudel, née dans l'Aisne le 8 décembre 1864 et morte à Mondevergue, Montfavet, Vaucluse, le 19 octobre 1943. Elle est sculptrice et artiste peintre française. Son art de la sculpture, à la fois réaliste et expressionniste, s'apparente à l'art nouveau par son utilisation savante des courbes et des méandres. Collaboratrice du sculpteur Auguste Rodin, sœur du poète, écrivain, diplomate et académicien Paul Claudel, sa carrière est météorique, brisée par un internement psychiatrique forcé et une mort quasi anonyme. Un demi-siècle plus tard, un livre, Une femme, Camille Claudel d'Anne Delbé en 1982, puis un film, Camille Claudel en 1988, la font sortir de l'oubli pour le grand public. Elle apparaît aujourd'hui comme la représentante des sculptrices françaises, mais elle n'est pas pour autant l'exception qui confirme la règle, puisque les femmes ont sculpté et sculptent encore. La sculpture est une pratique coûteuse, technique et physique, mais cela n'a pas empêché les femmes de s'y investir. La nécessité financière pousse les créatrices du début du XXe siècle à vendre leurs œuvres en se prêtant aux effets de mode. C'est le cas de Marie-Marcelle Jeanne Poupelet, née le 19 avril 1874 en Dordogne et morte le 17 octobre 1932. Elle est sculptrice et dessinatrice française. Après une enfance passée au château de la Gotterie à Clausure, Jeanne Poupelet étudie à l'École des Beaux-Arts de Bordeaux, puis à l'Académie Julian à Paris. Elle fréquente les cercles constitués autour d'Auguste Rodin et d'Antoine Bourdelle. Elle côtoie les artistes américains et les groupes féministes anglo-saxons. Grande figure de la sculpture du début du XXe siècle, Jeanne Poupelet se distingue à partir de 1918 en modelant avec l'américaine Anna Ladd des masques pour les gueules cassées de la Première Guerre mondiale. Alors, elles ont leur atelier au numéro 66 rue Notre-Dame-des-Champs, dans le 6e arrondissement de Paris, le Studio for Portrait Masks, fin 1917-1920. Elle a aussi excellé dans la sculpture animalière et a sculpté des nus féminins. Vice-présidente du Salon des Indépendants, elle a encouragé de nombreux artistes comme Aristide Maillot, René Hichet ou Matteo Hernandez. Nous trouvons également parmi les sculptrices de l'époque Renate Alice Saint-Denis, dite Renée Saint-Denis. Elle est sculptrice et graveuse allemande, née à Glatz le 20 mars 1888. Est morte à Berlin le 22 avril 1965. Issue d'une famille française aisée, Renée Saint-Denis suit d'abord des cours de dessin, puis de sculpture à l'Académie du Musée royal des arts décoratifs de Berlin. Elle quitte ses études vers 1910 et devient modèle pour Georges Kolb. Ensemble, ils participent aux expositions de Free Secession, un mouvement fondé en 1914 et qui compte dans ses membres des artistes comme Max Liebermann ou Georges Mosson. Un autre portrait qu'elle présente en 1915 est remarqué par le poète Rainer Maria Rilke, avec qui elle entame dès lors une longue amitié, et qui l'introduit dans son propre et important cercle de relations. Elle se marie en 1917 avec le peintre Émile Rudolf Weiss. Elle gagne en célébrité et en reconnaissance tout au long des années 1920 et en 1931. Elle est la deuxième femme élue à l'Académie des Arts de Berlin, après Kate Kollwitz. En janvier 1928, elle expose à Paris à la galerie Barbazan-Guess. En 1932, Renée Saint-Denis reçoit le prix Olympia pour The Runner Nummy, une sculptrice de 1926 achetée par le gouvernement français pour le musée Rodin à Paris. L'œuvre est aujourd'hui consacrée à la Halle Nationale Galerie. C'est aussi en 1932 qu'elle crée la sculpture intitulée Berliner Bar, qui deviendra en 1951 l'ours d'or remis chaque année comme récompense du meilleur film par la Berlinale. Un exemplaire de l'œuvre en bronze est offert à John Fitzgerald Kennedy lors de sa visite à Berlin-Ouest en 1963. En 1948, elle obtient le premier prix artistique de la ville de Berlin. En 1953, elle est promue commandeur de l'ordre du mérite de la République fédérale d'Allemagne. Fatiguée et malade, elle se retire progressivement de la scène artistique jusqu'à sa mort en 1965. René Saint-Denis s'est essentiellement attaché à représenter la jeunesse, les animaux, chevaux, veaux, chèvres, ânes, ainsi que le sport et ses athlètes, qu'elle saisit dans l'instantanéité de leurs attitudes caractéristiques.
Voici à présent quelques sculptrices contemporaines. Louise-Joséphine Bourgeois, née à Paris le 25 décembre 1911, est morte à New York le 31 mai 2010, est une sculptrice et plasticienne française, naturalisée américaine. Elle est surtout connue pour sa sculpture et ses installations monumentales, mais pratique également la peinture et la gravure. Elle explore les thèmes tels que l'univers domestique, la famille, le corps, notamment les organes sexuels, tout en abordant une approche qui se traduit comme une manifestation des subconscients et la réactivation de souvenirs de son enfance. Elle est proche des mouvements expressionnistes abstraits et du surréalisme, ainsi que du mouvement féministe, mais reste toute sa vie non affiliée à une mouvance particulière. Bien que née en France, Louise Bourgeois a passé l'essentiel de sa carrière artistique à New York, où elle s'est installée en 1938, après avoir épousé l'historien d'art américain Robert Goldwater, 1907-1973. Louise Bourgeois est célèbre à travers le monde entier pour ses gigantesques araignées disséminées dans plusieurs villes. Et voici une autre artiste contemporaine en la personne de Joana Vasconcelos. Elle est une artiste portugaise née à Paris le 8 novembre 1971. Elle vit et travaille à Lisbonne. Cette artiste et sculptrice portugaise crée des œuvres monumentales, souvent composées d'objets du quotidien, casseroles, tissus, miroirs, tampons hygiéniques. Par le biais de ses créations, Joana Vasconcelos questionne la place de la femme dans une société résolument masculine. Résultat, une œuvre féministe et engagée. En 2005, Joana Vasconcelos est exposée à la Biennale de Venise, où sa sculpture « La fiancée » fait sensation. Elle est exposée pour la première fois à la Biennale de Venise en 2005. La sculpture en forme de lustre du XVIIIe siècle est entièrement composée de tampons hygiéniques. En 2012, elle est l'invitée du château de Versailles pour l'exposition d'art contemporain où cette œuvre est refusée, mais elle sera exposée plus tard au 104 à Paris. Autres œuvres intitulées « Cœur de Viana » ou « Cœur indépendant rouge » en 2008 est une installation de 4 mètres de haut. Elle est faite de 5000 fourchettes en plastique de couleur que l'artiste a tordues sous la chaleur pour en faire un filigrane de couleur. Une version existe en jaune au restaurant Eleven à Lisbonne, en rouge au musée d'art moderne Grand-Duc Jean et une autre en noir au musée d'art contemporain de Castille et du Léon. Citons à présent la sculptrice Sylvie Mango. Née en 1961 en France, elle a tout d'abord été photographe et, tout en dessinant et peignant pour son plaisir, elle étudie la sculpture. À la fin des années 1990, elle se consacre essentiellement à son art. Elle travaille la cire sur une armature métallique avant de la couler en bronze. Ses créations, tout en légèreté et en finesse, oscillent entre force et fragilité. Les nus féminins et les animaux deviennent d'emblée son territoire de prédilection. Sylvie Mango vit à Paris. Ses œuvres immortalisent les postures qu'elle affectionne, telles le zen ou l'harmonie. Elle a su reproduire la magie toute aérienne en créant des pièces en pâte de cristal pour la célèbre maison d'hommes. Une sélection de ses œuvres est présentée en permanence depuis 2014 sur les 4 sites de la Galerie Estade à Paris, Lyon, Toulon et Baden-Baden en Allemagne.
À ce stade de l'émission, nous allons présenter à présent aborder les femmes architectes. Dans la préhistoire, chez les Inuits, le rôle des femmes dans les foyers nomades paléo-esquimaux consiste à maintenir une continuité entre des habitats saisonniers formés par des grandes maisons et des feux extérieurs. Sur le plan spirituel, les femmes esquimaux sont considérées comme l'âme de la maison et une sorte d'intermédiaire entre les chasseurs et les âmes des animaux chassés. De façon plus contemporaine, la toute première femme admise au sein d'une formation d'architecture en France est Laura White, d'origine américaine. Elle intègre en 1883 l'école spéciale d'architecture ESA, première formation d'architecture à ouvrir ses portes aux femmes. En Europe, les femmes ne sont pas absentes de l'architecture. Notablement, trois femmes semblent avoir eu la maîtrise du projet et de la construction de leurs demeures respectives. Au XVIe siècle, Catherine Brissonnet, pour son château de Chenonceau, et Jacquette de Montbron, pour le pavillon Renaissance du château de Bourdeil et celui du château de Matha. Au siècle suivant, la marquise de Rambouillet, pour son hôtel du Marais, l'hôtel Rambouillet construit au XVIIe siècle et disparu depuis. D'ailleurs, c'est à l'instar de cette dernière que beaucoup de grands seigneurs et de gens du monde se lancèrent en amateurs dans l'architecture. Dans la deuxième moitié du XVIIe siècle, une moniale, Antoinette Desmoulins, réalise les plans d'une église qui sera annexée en 1684 et 1686 à l'abbaye bénédictine de la paix de Notre-Dame à Liège. Il est peu probable que ces exemples soient uniques, surtout que certaines femmes, telles l'écrivaine George Sand, ont eu recours à un pseudonyme masculin pour entreprendre une carrière artistique. En France, les formations en architecture et les métiers liés à l'architecture et à la construction ont refusé la présence de femmes parmi les étudiants et travailleurs durant très longtemps. Toutefois, une ouverture et une évolution ont eu lieu. Ainsi, les universités françaises enseignent l'architecture aux femmes au début du XXe siècle. Les débuts académiques des femmes architectes ne démarre donc qu'à la fin du XIXe siècle. Alors que les hommes ont déjà entamé depuis environ 600 ans l'histoire de l'architecture en tant que profession. Pourtant, les femmes ont influencé l'aménagement de leurs environnements, construits avant que les universités ne leur ouvrent leurs portes. La mise à l'écart systématique des femmes des métiers de pouvoir ou techniques les éloigne donc de facto du domaine de la construction. De cela, il reste aujourd'hui encore de profondes traces. Nous voici arrivés à la fin de notre émission. Nous remercions Fréquence Mistral de nous avoir reçus et nous remercions également les auditeurs à qui nous souhaitons un bel été. Nous vous disons à la rentrée prochaine et vous souhaitons une très belle journée. Il y aura Grand Corps Malade en musique de fin, Mesdames le titre.
Acceptez, mesdames, ces quelques mots comme un hommage à votre jante que j'admire qui crée en chaque homme un orage. Au cinéma ou dans la vie, vous êtes les plus beaux personnages. Et sans le vouloir, vous tenez nos cœurs et nos pensées en otage. Veuillez accepter, mesdames, cette déclaration comme une tentative honnête de réparation. Face au profond machisme de nos coutumes, de nos cultures, dans le grand livre des humains, place au chapitre de la rupture. Vous êtes infiniment plus subtile, plus élégante et plus classe que la jante masculine qui parle fort prend toute la place. Et si j'apprécie des deux yeux quand tu balances ton corps, j'applaudis aussi des deux mains quand tu balances ton porc. Derrière chaque homme important se cache une femme qui l'inspire. Derrière chaque grand être humain précède une mère qui respire. La femme est l'avenir de l'homme, écrivait le poète. Eh bien l'avenir s'est installé, et depuis belle lurette. Vous êtes nos muses, nos influences, notre motivation et nos vices. Vous êtes Simone Veil, Marie Curie, Rosa Parks, Angela Davis. Vous êtes nos mères, vous êtes nos sœurs, vous êtes caissières, vous êtes docteurs. Vous êtes nos filles et puis nos femmes, nous on vacille pour votre flamme. Comment ne pas être en admiration et sans commune mesure pour celles qui portent et fabriquent pendant 9 mois notre futur. Pour celles qui cumulent plusieurs emplois et ce sans sourciller. Celui qu'elles ont dans la journée est le plus grand, mère au foyer. Veuillez accepter, mesdames, cette réelle admiration de votre force, votre courage et votre détermination. Veuillez accepter, mesdames, mon aimable faiblesse face à votre fragilité, votre empathie, votre tendresse. Veuillez accepter, mesdames, cette petite intro, car l'avenir appartient à celle qu'on aime trop. Et pour ne pas être taxé de premier degré d'anthologie, veuillez accepter, mesdames, cette délicate démagogie. Vous êtes poètes, nos muses, nos influences, notre motivation et nos vices. Vous êtes Simone Veil, Marie Curie, Rosa Parks, Angela Davis. Vous êtes nos mères, vous êtes nos sœurs, vous êtes caissières, vous êtes docteurs. Vous êtes nos filles et puis nos femmes. Nous, on vacille pour votre flamme.